Bonjour. Pensez un instant à votre adresse, votre rue, le numéro de votre habitation, numéro 7, numéro 20, numéro 35. Peut-être c'est un immeuble où il y a beaucoup de logements, série d'appartements, 4-5 appartements. Dans votre appartement, il y a peut-être des colocataires. Et néanmoins, Dieu s'intéresse à vous de manière personnelle, individuelle. Et pas seulement toi dans ta maison, mais aussi il connaît toutes les personnes de ta rue. Il connaît les 11 millions de personnes qui habitent en Belgique. Il connaît les pensées des 8 milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète. Quel cerveau est capable de suivre tout cela? C'est époustouflant, n'est-ce pas? Nous, avec notre petit cerveau, on n'arrive pas à penser à plus qu'une centaine de personnes, mais nous avons tendance à regrouper les gens, à parler des États-Unis ou de l'Union européenne ou de la Chine, parce qu'on n'arrive juste pas à suivre la quantité d'individus qu'il y a. Nous allons nous pencher sur l'histoire de personnes qui ne sont pas des grands leaders, ni des rois. Il s'agit de petites gens, si je peux les appeler comme ça. Une veuve qui a le sentiment d'être abandonné, un homme qui va découvrir l'amour de sa vie, une étrangère qui va être acceptée. Et cela nous montre l'intérêt particulier que Dieu a pour chaque personne de son monde. Je parle du livre de Ruth dans la Bible. Nous allons passer quelques semaines à écouter ce livre attentivement, à découvrir cette histoire. C'est une courte histoire, 4 chapitres, mais c'est un joyau, ce petit livre plein de richesses. Ruth, vous le trouverez dans votre Bible juste avant 1 et 2 Samuel. Alors, parfois, les titres des livres ne nous aident pas beaucoup. Il n'y avait qu'un seul Samuel, mais 1 et 2 Samuel sont deux livres à son nom. Et c'est juste après le livre des juges, parce que cela se passe à la même époque. Tandis que le livre des juges nous parle de grands leaders et des guerriers, des armées, des nations, le livre de Ruth nous parle de ce que Dieu faisait auprès d'une famille, madame, monsieur et les jeunes. On va lire tout le chapitre premier. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme, Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais « J'ai de l'espérance », même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois ta belle-sœur retourner vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Vie amère ou améliorée, c'est le titre que j'ai donné à ce chapitre. Vie amère ou améliorée. On sait ce que Naomi en pense, n'est-ce pas? Le chapitre se termine sur une note d'amertume. Essayons de comprendre comment on est arrivé là. D'abord, il y a un voyage vers le pays maudit, un voyage au pays maudit. C'était l'époque des juges, nous dit le verset 1, et il y avait une famine. On va essayer de comprendre cela. L'époque des juges, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'était pas une période très juste, où il y avait beaucoup de justice dans le pays. Il y avait beaucoup de désobéissance qui entraînait la souffrance. Par exemple, à un moment, le peuple d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel donna la force à Églon, le roi de Moab. Et celui-ci va envahir et régner sur une partie d'Israël pendant 18 ans. Ce n'est qu'après que le peuple prie que Dieu envoie un leader guerrier, on appelle ça un juge dans le livre des juges, et ce leader guerrier va conduire son peuple et le libérer. Ici, un homme de la petite ville de Bethléem va prendre une décision radicale. Bethléem, en fait, signifie « maison du pain ». Et ce qui est ironique, c'est que là, il n'y a pas de pain dans la maison du pain. Et donc, il décide de s'en aller. Il s'en va avec sa femme et ses enfants dans, pas seulement une autre ville, mais un autre pays. Mais je pense que quand on lit cette histoire, nous avons pas mal de sympathie pour Élimélec. Nous nous disons ben, « c'est normal, nous aurions fait la même chose ». C'est samedi soir, vous allez à votre boulangerie habituelle et vous trouvez qu'il n'y a pas de pain à la boulangerie, ben vous allez au supermarché, n'est-ce pas? Et vous ne pensez pas que c'est quelque chose de mal de faire cela? Évidemment, non, c'est normal. Rien n'est dit explicitement qu'il soit une critique de M. Élimélec, mais en fait, ce qu'il fait est une catastrophe. À l'époque, le peuple d'Israël était sous l'ancienne alliance. Il faut comprendre les termes et les conditions parce qu'elles sont très claires dans l'Ancien Testament. Écoutez ce qu'il est dit en Deutéronome. « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements, alors Dieu promet beaucoup de bénédictions, y compris celle-ci. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. » Vous entendez cela? Promesse de pluie et d'abondance s'ils obéissent à Dieu. Mais s'ils désobéissent, alors tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton bétail, tout cela sera maudit. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze et la terre sous tes pieds sera de fer. J'ai lu dans Deutéronome 28. Dans le contexte de l'Ancienne Alliance alors, s'il y a cette famine, la famine est un signe qu'il y avait eu un manque d'obéissance de la part d'Israël. Et donc, Élimélec, face à cette punition, ne devait pas s'enfuir. Il devait plutôt prier Dieu. C'était le moment pour revenir à Dieu dans la confession. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les famines du monde sont causées directement par la désobéissance aujourd'hui. Mais c'était les conditions à l'époque, et c'était clair, c'était connu depuis Moïse. Élimélec et Naomi partent. Mais ils partent du pays promis, où ils devaient vivre, le pays que Dieu avait donné à son peuple. Et ils vont s'installer chez le peuple ennemi. Moab était à 80 ou à 100 kilomètres de Bethléem, un territoire hostile à Dieu, où les ennemis de Dieu vivaient. C'était un pays maudit. Ils ont du pain, mais ils sont aussi des païens, des pratiquants de l'idolâtrie. C'est l'équivalent de dire « je quitte l'Église et je vais aller me mettre dans une autre religion, parce qu'eux ont plus de moyens que l'Église évangélique. » Et c'est un mauvais choix. Ils vivent là pendant 10 ans. Sauf que Élimélec meurt. Et les deux jeunes, je les imagine ayant 13 et 15 ans quand ils sont partis, je ne sais pas quel âge ils avaient, grandissent là, deviennent des hommes, des jeunes hommes, et ils se marient. Ils ne sont pas mariés pendant 10 ans, mais ils vivent à Moab pendant 10 ans. Et ils pêchent en épousant des femmes de ce peuple idolâtre. C'était aussi interdit. Ils ne vont pas avoir d'enfants, mais ils meurent. Quitter la terre promise pour aller au pays voisin. Ça semblait être le choix le plus facile. Pourtant, c'était le mauvais choix. Et Naomi, en faisant ce pas avec son mari, a fait tout le contraire de ce que nous venons de chanter ce matin, en mettant notre confiance en Dieu et en restant fidèles aux promesses de Dieu. Et remarquez l'ironie. Ils essayent de fuir la mort de la sécheresse. Ils finissent par mourir dans le pays où ils se sont installés. Mourir d'une autre cause que la famine, mais ils sont morts quand même. Alors il ne reste que les 3 femmes, Naomi et 2 étrangères, Ruth, la veuve de Maclon, et Orpa, la veuve de Kiljon. Les amis, nous pouvons avoir toutes sortes d'idées, n'est-ce pas ? Des projets, des envies, de choses que nous pensons seraient bonnes pour nous, mais le scénario que nous nous faisons, est rarement le bon. Au lieu d'improviser une solution, nous devrions chercher à plaire à Dieu et à nous conformer à sa volonté, même si c'est dur. Mais tellement souvent, n'est-ce pas le cas, que nous cherchons la bénédiction ailleurs qu'en Dieu. Nous cherchons un raccourci humain, le couple qui dit « Ah, on voudrait profiter de notre amour. » Tant pis pour les ordres du Seigneur sur le mariage. Ou le jeune qui dit « Je veux réussir mes études. » Tant pis pour le fait que Dieu veut que je le mette à la première place. Dieu peut attendre. Ou l'individu qui dit « Je veux avoir des amis. Je ne veux pas parler de ma foi parce que je risque de perdre leur approbation. Et donc je tais le fait que je suis chrétien. » Voyez-vous, on veut des bonnes choses, mais on oublie Dieu. En disant ceci, je ne minimise pas les souffrances qui peuvent nous arriver. La discipline de Dieu peut nous faire mal, mais c'est pour nous faire réfléchir. Et puis vient un tournant. Retourner à l'Éternel. Le retour à l'Éternel. Naomi est là, au verset 6. Elle décide de quitter la région de Moab. Elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. De l'autre côté de la mer morte, un réveil spirituel avait entraîné la délivrance et la bénédiction de son peuple. Et Naomi, après son appel, de la bonté de Dieu, elle aspire à rentrer dans son pays et recevoir sa part de bénédiction. Et au verset 8, elle prie pour ses belles filles que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, dit-elle. Elles ne doivent plus l'accompagner, ce n'est plus elle qui peut leur donner un mari et sa sécurité. Avez-vous remarqué le mot qui revient ici, qui est utilisé souvent, c'est le mot « retourner ». Vous l'avez peut-être entendu à la lecture. Il se trouve au verset 8. « Retournez ». Verset 11. « Retournez chez vous, mes filles ». Verset 12. « Retournez chez vous ». Verset 15, Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Mais c'est aussi ce que Naomi est en train de faire. Verset 7, elle va retourner dans le pays de Juda. Et ses filles disent littéralement au verset 10, « Nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Alors pourquoi est-ce que c'est significatif? Parce que ce verbe « retourner » est le verbe qui est utilisé pour la repentance dans l'Ancien Testament. La repentance. Faire demi-tour. Naomi est partie, maintenant elle va faire demi-tour. Est-ce que les filles, les belles-filles, vont retourner chez elles ou retourner, faire demi-tour, se repentir et venir dans le pays de Naomi? Un jour, je suis monté dans un bus sans savoir si c'était le bon. Ça arrive hein, parfois avec la STIB, voilà, y a pas d'affichage devant, on est à l'arrêt, il y a un bus qui vient, on monte dedans, n'est-ce pas? Et la première chose qu'on fait, c'est on demande à quelqu'un d'autre, et c'est quel bus, on va dans quelle direction? Alors, si on est dans la bonne direction, c'est bon. Mais si ce n'est pas le bon bus, vous pouvez être au point de départ, le même point de départ, mais vous pouvez arriver à des destinations complètement différentes. Et donc la première chose à faire, c'est de descendre du bus à l'arrêt suivant et faire demi-tour si vous avez pris le mauvais chemin. Si on s'est trompé, c'est la chose qu'il faut faire. Et c'est ce que nous devons faire chacun de nous. Je sais qu'une décision entraîne parfois une autre décision. Et parfois, on se trouve bien loin dans une situation et on ne sait pas comment s'en sortir. Mais retourner à l'Éternel doit être la démarche première. Après, on met les autres choses en ordre, n'est-ce pas? Mais d'abord, la relation avec le Seigneur. Et c'est ainsi que c'est décrit la foi chrétienne. Pierre écrit, « Vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » J'aime beaucoup cette phrase de la Bible. Elle décrit tant de choses, n'est-ce pas? Comment nous égarons de Dieu, nous nous éloignons dans la mauvaise direction. Mais lorsque nous revenons à lui, qu'est-ce qui se passe? Il nous protège, il nous accueille, mais il faut retourner. C'est un choix personnel. Je pense que Orpa est là pour montrer un contre-exemple. Pour Orpa, Moab est plus intéressant. Elle a plus de chances d'avoir un mari là-bas. Sa mère habite toujours là-bas. C'est son peuple, c'est sa religion, c'est rassurant quelque part d'être là-bas. Ruth va prendre la bonne décision, mais elle ne va pas prendre la voie de la facilité. Elle quitte son pays, elle quitte sa patrie, elle sera étrangère dans un nouveau pays, et ceux et celles qui sont étrangers, étrangères, dans ce pays, vous savez comment c'est difficile d'être étranger, n'est-ce pas? Difficile d'être accepté. Elle suit une dame qui n'a ni richesse ni moyen de travailler. Elle sait que sa belle-mère ne pourra plus lui donner un mari. Naomi est très claire par rapport à ça. Et la mort, en fait, a coupé le lien qui unissait ces deux dames. Ruth était unie à Naomi parce qu'elle était l'épouse de son fils, mais il n'est plus là. Pourtant, elle y va. Son choix n'est pas économique. C'est un choix de foi. Parce que Naomi avait dit au verset 12, « Même si je disais que j'ai de l'espérance, en fait, elle n'a plus d'espérance. » En regardant ces versets, je pense que Naomi n'est pas vraiment un bon modèle de témoignage. On se demande comment Dieu a pu l'utiliser pour convaincre Ruth que c'était le bon chemin. Elle parle de Dieu, mais elle ne donne vraiment pas envie de le suivre. Elle est en train de décourager Ruth. Ne me suis pas, ne me suis pas. Ne viens pas avec moi. Mais Ruth est animée par une conviction profonde que c'est ça le chemin qu'elle doit suivre. Dieu peut vraiment faire des choses remarquables. Aux endroits où on s'y attend le moins, il peut agir. On ne doit pas oublier cela. Et nous devons répondre à son appel. Son appel qui est tout simplement « reviens ». La première fois dans notre vie que nous prenons conscience du fait que nous sommes perdus, eh bien, c'est la décision majeure de notre vie de dire je reviens, je reconnais que je veux être sauvé, j'ai besoin d'être sauvé, et en Jésus, j'ai celui qui peut me sauver. On peut soupçonner les leaders chrétiens, lorsqu'ils lancent des appels comme ça, à penser qu'ils souhaitent simplement gonfler le nombre de fidèles ou leur chiffre d'affaires ou leur réputation en ayant plus de baptêmes à l'Église. Je vous assure que ce n'est pas ça qui me conduit. Je n'ai pas de prime de salaire par rapport au baptême qu'il y a pendant un an. C'est seulement que je sais qu'il y a d'un côté Dieu qui veut nous récupérer, il est bienveillant, il veut nous protéger, il veut nous sauver. Et puis de l'autre côté, il y a tant de gens qui ignorent ce Dieu et qui sont perdus et qui vivent et qui meurent sans espoir. Et je voudrais simplement vous mettre en contact l'un avec l'autre, pas en passant à travers moi, mais simplement que vous puissiez travailler à cette relation avec Dieu qui est là, qui est offerte et qui est gratuite. Et il saura vous prendre en charge. Mais ensuite, il y a d'autres retours. En tant que chrétien, c'est facile d'oublier Dieu. Et si tu t'es éloigné, pas physiquement, mais spirituellement de Dieu, parce que quelque chose est devenu trop important dans ta vie, et c'est devenu la priorité dans ta vie. Peut-être que ce qui domine chez toi, c'est le sport, ou le sommeil, tu as juste envie de bien dormir, ou la relation avec quelqu'un que tu recherches, ou ta carrière, ton succès. Ces choses envahissent notre âme et prennent de la place, n'est-ce pas ? Notre cœur y est attaché. Et c'est comme si Dieu est toujours à l'écran, mais on a juste enlevé nos écouteurs et on ne l'entend plus. Et si c'est le cas pour toi, je ne connais pas l'état du cœur de chacun, c'est le moment pour répondre à son appel, reviens. Ta Bible prend de la poussière à la maison. Il est temps de l'ouvrir à nouveau. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Il faut revenir au Seigneur. Donc n'attends pas demain ou la fin de ta vie, reviens aujourd'hui. Dis au Seigneur, règne dans ma vie, pardonne-moi, je veux avancer avec toi. Et puis dans la dernière partie, par la foi, en route vers la terre promise. En route avec Ruth vers la terre promise. On va relire les versets 16 et 18 parce que c'est un peu la clé de ce chapitre. Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Comme Abraham, comme Moïse, comme Josué, Ruth commence à l'extérieur du pays promis. Mais elle va faire un chemin par la foi vers cette terre. Ce n'est pas une expérience touristique pour dire « Je me demande comment c'est là-bas, j'aimerais voyager. » Ce n'est pas ça qui la conduit. Elle va accompagner Naomi, la seule personne qu'elle connaît, mais elle dit « Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Ce sont les aspects les plus importants de l'identité, n'est-ce pas ? Où est-ce que tu habites ? Quelle est ta nationalité ? À qui appartiens-tu ? Qui est ton peuple ? Et qui est ton Dieu ? C'est cela qui devrait nous définir. Et Ruth abandonne le Dieu de Chémosh, le Dieu de Moab, faux Dieu évidemment, Dieu de sa région, pour croire en l'Éternel. Elle fera même cette promesse en son nom au verset 17. Quelle déclaration de foi ! Tandis que Naomi et Élimélec avaient douté de Dieu, que Dieu pourvoirait du pain, que Dieu allait les garder en vie, et que Naomi doute que Ruth va trouver un mari, ils avaient tort. Sans avoir le bon exemple de foi, parce que ce n'est pas vraiment des croyants exemplaires, et Naomi et Élimélec, Ruth va prendre la bonne décision. Elle ira vivre en Israël jusqu'à sa mort. Ruth est décidée. Verset 18, c'est un mot qui est frappant, n'est-ce pas ? Elle est décidée, elle a de la détermination, son choix est ferme. Et c'est la démarche de foi pour nous aussi. Nous ne devons pas aller habiter en Israël, ce n'est pas ça le choix qui est devant nous. Mais lorsque nous décidons que nous voulons suivre Christ, il faut décider une fois pour toutes. Si vous achetez les mauvais vêtements et que celles-là ne vous conviennent pas, vous avez 15 jours pour les ramener avec le ticket de caisse au magasin. Mais avec la foi, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Ce qui distingue un vrai croyant de quelqu'un qui est simplement présent à l'Église, c'est la fermeté de sa décision. À un moment, il faut décider. C'est sans retour. Qui nous allons servir? Qui nous allons aimer? Qui va être maître de notre vie? Avez-vous décidé? Nous pouvons tous être emportés par un mouvement de masse, ou par les autres, un courant. Si maman et papa vont à l'église, ben, on va à l'église. Ça fait plaisir à madame ou aux enfants, ben, on va avec eux. Mais si les choses changent, alors je changerai aussi. Non, ce n'est pas ça. Nous devons décider. Tant pis ce que les autres pensent. Tant pis si les autres n'ont pas envie. Moi, j'y vais. Moi, je compte sur le Seigneur. Moi, j'avance avec lui. Et c'est l'exemple de Ruth. Elle est déterminée. Et j'admire cela. Naomi arrive aussi à Bethléem, et là, c'est tout autre chose. Elle est de retour, mais son apparence a changé. L'âge, la famine, le soleil, surtout le deuil, aura changé son expression. C'est difficile pour les autres de la reconnaître, vous avez entendu cela. Peut-être qu'elle est habillée différemment, habillée maintenant en veuve, mais elle veut même changer son nom. Avant, elle était appelée Naomi, ce qui signifie « ma douce ». Mais elle veut maintenant être appelée Mara, qui signifie « amère ». Versets 20 et 21. Je vais lire avec donc la traduction. Elle leur dit « Ne m'appelez pas ma douce, appelez-moi amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous ma douce, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. » Naomi va au-delà de son deuil. C'est légitime de pleurer face à la mort, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste de la tristesse. Elle peut exprimer son malheur. Il y a d'autres personnes de la Bible qui nous montrent comment le faire sans aller plus loin. Mais elle est allée plus loin. Elle a choisi l'amertume. Elle a choisi de s'attacher à sa blessure, de son passé et à ce qui ne va pas. Naomi a la mauvaise image de son passé. Elle a la mauvaise image de Dieu, parce que c'est Dieu qu'elle accuse. Vous avez remarqué cela dans son propos. Elle dit « le Tout-Puissant ». C'est une expression qui exprime, bien sûr, notre impuissance quand on dit « Dieu est Tout-Puissant ». Mais au lieu de compter sur la puissance de Dieu pour sa délivrance, elle ne voit que l'opposition de Dieu. Vous savez, un Dieu qui est puissant mais dur, c'est impitoyable, c'est invivable. Alors je voudrais poser la question à Naomi, si elle était là, as-tu oublié que Dieu est bon? Verset 6, elle avait entendu que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Verset 8, elle dit que l'Éternel agisse avec bonté envers vous. Et là, elle fait allusion à la bienveillance fidèle de Dieu dans l'Alliance. Pourtant, ce qu'elle croit ou ce qu'elle dit pour les autres, elle ne croit pas que ça va lui revenir. Elle n'y croit plus pour elle-même. Fini la bonté de Dieu. Et elle ne voit plus sa responsabilité. Elle tourne les choses en disant « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Non, Dieu n'a pas fait ça. Je comprends que des choses dures peuvent nous arriver dans cette vie. Peut-être qu'on devrait dire plus souvent. Les choses dures peuvent nous arriver dans cette vie pour que nos attentes soient justes. Moi, en tant qu'individu, j'ai eu une vie très facile jusque-là. Mais en tant que pasteur, j'ai assez entendu pour comprendre qu'il y a beaucoup de souffrances que d'autres ont vécues. La vie dans ce monde est pénible. Il y a des pertes, comme Naomi a perdu son mari et ses fils. Ça me fait penser aussi que nous devons entendre les souffrances des autres, parce que ça peut nous aider parfois à relativiser nos propres petites souffrances, nos petits problèmes. Vous savez, d'autres personnes ont souffert beaucoup plus que nous. Il ne faut pas l'oublier. Mais même ceux qui souffrent, n'ont pas le droit d'accuser Dieu. Ils sont responsables pour leur réaction. Et l'amertume est un choix comme d'autres choix. Au lieu de dire « le Tout-Puissant a provoqué mon malheur », elle pourrait dire « nous avons provoqué le Tout-Puissant par notre désobéissance ». Il y a une autre chose dans ce texte qui nous montre sur l'amertume, la perspective de Naomi, au verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Ça, c'est faux. C'est faux aussi. Oui, elle avait son mari et ses fils quand elle est partie. Mais elle est partie parce qu'il y avait une famine. Elle n'était pas remplie, elle était vidée, elle n'avait rien. Elle n'était pas dans l'abondance. Et quand elle revient, ce n'est pas les mains vides. Et là, elle tient en main sa Ruth, sa belle-fille, qui l'accompagne. Le verset 22 nous le rappelle. Ils reviennent ensemble. Ne pouvait-elle pas voir les choses différemment? Sa situation était meilleure qu'elle l'imagine maintenant. Elle pouvait dire les choses différemment. Elle pouvait dire « avant j'étais dans le péché ». Maintenant, je suis dans l'obéissance. Sa vie s'est améliorée. Avant, je suis mon mari infidèle. Maintenant, je suis accompagné par ma belle-fille croyante. La vie s'est améliorée pour Naomi en cette fin de chapitre. Et par Ruth, Dieu va pourvoir pour Naomi. Ruth va travailler. Ruth va être la clé de la bénédiction pour Naomi. Les choses vont de mieux en mieux. Elles arrivent à Bethléem, à quel moment? Au début de la moisson, verset 22. À son départ, c'est la famine. Ils reviennent, c'est la moisson. Et cela nous indique une chose, frères et sœurs, une chose que nous faisons mal, c'est évaluer notre situation de vie. Évaluer nos circonstances présentes, on le fait très mal. Naomi s'est complètement trompée sur son état actuel et passé. Tu sais qu'un jour, tu pourrais regarder cette période de ta vie et te dire « j'étais tellement heureux, c'était les meilleurs moments de ma vie, les mois les plus heureux de ma vie, c'était maintenant. » Et actuellement, tu ne penses pas comme ça. Tu pourrais te plaindre actuellement de ta situation et rater complètement ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce qu'au final, Naomi est au pays promis. Elle est là où est son héritage, elle est de retour auprès du Seigneur. Elle n'est plus dans le pays de la désobéissance et de l'idolâtrie. Elle est accompagnée par celle que Dieu a prévue pour son secours. Mais c'est facile pour nous. Nous savons ce qui va arriver à Naomi. Mais nous ne le savons pas pour nous. Et donc le défi pour nous, c'est que nous ne devons pas nous plaindre quand c'est à notre tour. De ne pas nous plaindre de la providence de Dieu, mais que nous puissions continuer à croire « il est bon ». Et ma vie est entre ses mains. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas avoir à cause du fait que nous sommes chrétiens. Il y a des choses que nous allons perdre aussi sur le chemin de la vie. Les plaisirs de Moab et du péché, la sécurité apparente de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais si nous avons Christ, nous avons gagné. Et si seulement on pouvait se rendre compte de cela, j'ai Christ et donc j'ai gagné. Paul dira, tout le reste est une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Ce que nous perdons est bien peu comparé à tout ce que nous gagnons par la faveur de Dieu. Prions ensemble. Oui, Seigneur, cette histoire de 2, 3, 4 individus qui sont comme nous, gens ordinaires, nous ouvre les yeux sur ta façon d'agir, toi qui es au-dessus de nous, ta toute puissance. Tu pourvois, tu protèges, tu attires vers toi, tu sauves. Et nous voulons simplement ce matin, Seigneur, nous rappeler ta bonté. Pardonne-nous notre amertume, pardonne-nous nos plaintes, garde-nous proche de toi, que nous puissions trouver en toi notre consolation dans les moments d'épreuve, mais aussi vite revenir vers toi si nous nous sommes éloignés. Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous puissions vivre marcher dans tes voies tous les jours de notre vie, parce que c'est là où est la joie. Nous prions cela au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Berger bien-aimé.